Le point à retenir, c'est qu'est-ce qui te challenge à toi en fait? Et pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Qu'est-ce qui pourrait provoquer un déclic chez vous en fait? Peut-être même que la raison est déjà là, mais vous l'avez pas identifié comme un déclic. Et ça, je pense que c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que certains en fait arrêtent? Parce qu'ils ont pas identifié leur vrai truc. Et à un moment, ils se lancent et ils finissent par abandonner. Ou alors, ils génèrent du cash et après, ils se barrent. Et ils ont pas identifié la vraie raison qu'ils ont envie de continuer constamment à avancer dans leur business. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce qui sera votre déclic à vous.
Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Gaston.
Yes, salut Alec.
Comment tu vas?
Ça va super, je te remercie et toi?
Eh ben écoute, en pleine forme, ça fait super plaisir de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Ouais, je t'en prie avec grand plaisir, grand plaisir.
On n'a pas une intro aussi joyeuse et avec un tempo aussi fou que sur ton podcast, mais en tout cas, on va passer un excellent moment et je pense qu'il y a des pépites qui vont être délivrées. Moi, j'avais vraiment envie de t'accueillir ici, comme je te disais il y a quelques instants, parce que tu fais partie des rares personnes que je peux compter sur les doigts d'une main, voire éventuellement sur les doigts de deux mains, en francophonie, que j'estime vraiment être expert dans le domaine du business en ligne en général, de par ton passif, de par les personnes que tu as accompagnées personnellement en conseil, en stratégie, en mise en place aussi avec ton agence sur ces dernières années, et puis de par le fait qu'on se connaît depuis maintenant des années et des années. Donc j'ai vu aussi ton parcours, j'ai vu ton évolution, et puis en plus... t'es comme moi un fin gourmet et t'as de bonnes adresses où aller manger.
Ouais, ouais. Donc voilà, les vrais sujets.
Les vrais sujets. Donc voilà, c'est quand j'ai découvert l'adresse que tu m'as fait découvrir, je me suis dit lui il le faut sur le podcast, c'est sûr. Voilà, plus sérieusement en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que pour celles et ceux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Bien sûr. Bah écoute, déjà je suis super content de faire ce podcast, cette interview avec toi. Merci beaucoup pour ton introduction. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Gaston Hakim Las, je suis franco-marocain. Je suis né, j'ai grandi au Maroc, j'ai découvert les business en ligne il y a peut-être plus de 10 ans maintenant, mine de rien, ça commence à chiffrer et à tourner. J'ai découvert l'infoprenariat et on va dire les business en ligne vraiment par hasard. J'ai lancé un premier business qui était une passion, qui était celle du Maroc. Et de fil en aiguille, l'expertise s'est développée, elle s'est aiguisée. J'ai fait partie de la génération qui a vu arriver ClickFunnels sur le marché de la francophonie et cette espèce de petite révolution qui était les tunnels de vente, en tout cas à l'époque. J'ai développé mes armes autour de cet outil, autour des tunnels de vente, et petit à petit, l'agence est née, l'agence a grandi. Et aujourd'hui, on accompagne plusieurs personnes qui génèrent des millions, si ce n'est des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'insiste sur la notion de chiffre d'affaires. Peut-être qu'on en reviendra un peu plus tard dans cet épisode. On les accompagne sur la mise en place de la stratégie, la création de leur tunnel, le copywriting, du marketing. Et on les accompagne tout au long du développement de leur business. Voilà, et je suis installé ici au Maroc, à Casablanca. Et comme tu l'as dit, je profite de la vie sous le soleil, avec de bons petits plats au quotidien. Quoi.
Merveilleux, merveilleux. Donc, t'es né au Maroc, t'es ensuite allé en France, t'es retourné aujourd'hui au Maroc. D'ailleurs, t'avais lancé un blog qui s'appelle Vivre au Maroc. Je me souviens, mais ouais. Moi, j'avais consulté certains éléments de ton blog quand je réfléchissais où potentiellement aller vivre. J'en avais marre de la brume ouais. londonienne ah ouais. et de la morosité de la Suisse. Mais effectivement, super, super intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le web et qu'est-ce qui a fait que t'as lancé notamment ton blog? Parce que finalement, comme tu dis, ça fait à peu près 10 ans. Aujourd'hui, c'est une évidence que d'être présent sur Internet lorsque tu veux développer un business ou un infobusiness, il faut l'être, il faut le faire. Mais dans le passé, encore une fois, c'était pas du tout évident. Il n'y avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te dire « Ok, je veux faire ça et je veux lancer un blog autour du fait de vivre au Maroc et du Maroc, qui est mon pays de cœur, qui est mon pays natal. »
Ouais, écoute, c'est une bonne question. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, à ce moment-là où je découvre un peu les business en ligne, je rentre en stage en fait chez Adidas Cette période de stage se passe plutôt bien. Je ne sais pas encore si elle va déboucher, pardon, sur un CDD, un CDI ou ce que ça va donner. Mais je commence à me rendre compte que, ok, on est rentré, on a un job, c'est intéressant, mais effectivement, on commence à vite être limité en termes de revenus par rapport à toutes les promesses qu'on a pu nous faire, notamment en école de commerce. Bon, j'ai fait qu'une année en école de commerce, le reste c'était l'université, des échanges universitaires. Donc on se rend compte qu'on est assez loin des promesses qu'on nous a faites. À côté de ça, mon père commence à avoir de graves soucis de santé. Mon père, ma mère habitent au Maroc, à Casablanca, et moi je me retrouve en Alsace, à Strasbourg, dans l'est de la France. Et là, en fait, commence à, si tu veux, à se passer un truc où je me dis, mince, j'ai fait un petit peu tout ce que le système attendait de moi, j'ai mon diplôme, je suis rentré dans une bonne boîte Adidas, j'adorais mon temps de passage, on va dire, chez eux. Mais effectivement, c'est assez complexe parce que tu te dis, bon, je peux pas non plus voyager, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas aider financièrement mes parents dans l'adversité, on va dire ça comme ça. Et en même temps, je peux pas non plus être proche d'eux. Donc, je commence un petit peu à faire des recherches sur Internet, je commence un petit peu à me renseigner, je découvre des personnes qui gagnent leur vie, en fait, sur le web. Je découvre différents programmes de formation et je me rends compte qu'il y a une variable qui revient souvent. C'est notamment le fait de choisir une spécialité, se former dessus, et notamment la vitesse d'implémentation. Et là, je me dis, bon, garçon, ok, t'as compris qu'il y en a qui gagnent leur vie grâce à des blogs, il y en a qui gagnent leur vie grâce à des business en ligne, mais maintenant, il faut vite implémenter, donc qu'est-ce qu'on fait? Et j'avais cette idée constante de revenir vivre au Maroc, de revenir vivre au Maroc, de me rapprocher de mes proches, et je me suis dit, bah, tu sais quoi? Peut-être que tu vas le garder, peut-être que tu vas pas le garder, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est juste que tu puisses implémenter ce que tu apprends rapidement. Et c'est comme ça, en fait, que je choisis la thématique de la vie au Maroc pour tester un petit peu tout ce que j'apprends sur le sujet des business en ligne. Et là, je découvre qu'est-ce que c'est qu'une page de vente, qu'est-ce que c'est qu'un processeur de paiement, qu'est-ce que c'est qu'un autorépondeur. Je découvre un petit peu tout ça sur le tard, mais au moins j'implémente, j'avance et je commence aussi à faire mes premières ventes. Et là, c'est particulier parce que je vends un programme sur la vie au Maroc, alors que moi j'habite à Strasbourg en Alsace, et c'est particulier parce que tu reçois des paiements, tu reçois des mails de remerciements de personnes qui réalisent leur rêve d'aller vivre au Maroc, et tu te rends compte que toi t'es toujours bloqué à Strasbourg en Alsace, et tu te rends compte que tu vis un peu ton rêve de retourner vivre au Maroc un peu par procuration. Donc ça a été un petit peu le déclic, si tu veux, d'un côté la maladie de mon père qui avait besoin de moi, qui avait besoin de son fils aîné, et de l'autre côté, en fait, cette incapacité à pouvoir bouger, à pouvoir aider. Et la liaison entre les deux, ça a été le business en ligne, et justement cette thématique qui a été de dire, ok, bah tiens, implémentons, voyons ce que ça donne, et ça a marché puisque ça a commencé à générer quelques milliers d'euros par mois, enfin d'abord quelques dizaines, quelques centaines, et puis après ça a fini par grossir petit à petit, quoi.
Est-ce que tu te souviens, année après année ou mois après mois, la vitesse à laquelle ça grandit? Parce qu'aujourd'hui, du coup, quand on parle de toi, Gaston, on sait que tu accompagnes au travers de ton agence des gros acteurs du monde infoprenarial depuis maintenant plusieurs années. On sait que du coup, tu as mis en place des séminaires, des masterminds, etc. Donc, on en déduit largement que tu as une certaine aisance et ça se passe bien pour toi et on voit le haut de l'iceberg. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le démarrage et le début parce que la plupart des gens, tu sais, lorsqu'ils sont sur Instagram, sur YouTube, sur qui écoutent des podcasts et autres, ils disent waouh, mais waouh, c'est incroyable, mais jamais j'y arriverai. Ils lancent leur truc malgré tout, ils sont pleins de motivation, ils osent, ils sont pleins de courage pour oser. Et là, ils lancent leur truc, ils sont super fiers. Et ils ont zéro vente, tu vois, ou ils ont très peu de résultats et ils se disent, mais c'est pas possible, ça marchera jamais. Et c'est bien aussi de nous raconter un petit peu, bah, quand tu démarres finalement, bah, c'est quoi les débuts, c'est quoi les doutes et comment ça s'est passé pour toi? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Écoute, c'est une bonne question. Honnêtement, Honnêtement, je le dis à chaque fois, mais les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est difficile de réussir dans le business en ligne. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile qu'avant, mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais pour arriver un petit peu à resituer dans le contexte, moi, quand je démarre, on est à peu près en 2013, 2014. Donc, bah là, on est en 2023. Donc, il y a, mine de rien, quasiment déjà 9, 10 ans. Ça va tellement vite. Et effectivement, là, la particularité, en plus, moi, de la difficulté que j'ai eue, c'est, je rentre chez Adidas. Donc, j'ai un poste, en fait, où je suis commercial. Je dois faire beaucoup de routes. Je devais m'occuper de grands magasins Intersport et Sport 2000 dans l'Est de la France. Et dès 8 heures, il faut déjà que je sois chez le client. Donc, en fait, tu te dis, bon, OK, si je veux réussir, il n'y a pas 36 solutions. Je vais me lever à 4 heures du matin. Je fais mon petit rituel, je prends ma douche froide, je prépare ma journée, tout ça et tout. À 4h30, je suis OP, je démarre et moi, je bossais de 4h30 à 7h. Tous les matins, 4h30, 7h du matin. Après, je prenais mon petit déj, à 7h30, je traçais, je prenais la route. Et sur la route, au quotidien, c'était des podcasts, des vidéos YouTube que j'écoutais sur la route, sur des aires d'autoroute, c'était des vidéos que je regardais, j'essayais d'avancer comme je pouvais. Mais c'est vraiment beaucoup de difficultés, on va pas se mentir, hein. Tous ceux qui vous disent « Ouais, ça y est, je gagne ma life, je fais tout », c'est au quotidien, il faut charbonner, et c'est pas évident, hein. Le nombre de galères que j'ai eues, je vais pas te mentir, il y en a eu plein. Le nombre de fois où tu passes énormément de temps à préparer un webinar et tu ne sais pour quelle raison t'as webinar jam qui plante, tu te dis putain, c'est un mois de travail que je viens complètement de louper, ou alors tu lances le truc et tu te rends compte qu'au bout de 2 semaines, en fait, il y avait un bouton qui marchait pas et c'est ce qui faisait que tu faisais aucune vente. Enfin bref, des galères. Il y en a, mais énormément, énormément. Et tu sais, c'est une sélection naturelle, Alec. C'est une sélection naturelle. Le business en ligne, en fait, clairement, tout le monde ne va pas réussir. C'est une sélection naturelle. Et il y a que les plus déterminés, les plus coriaces, les plus honnêtes aussi. Ça, c'est peut-être plus la variable pour réussir sur du long terme. C'est ton intégrité et ton honnêteté, qui vont faire que t'es pas un effet comète et que, comme toi ou moi, on est encore là après des années et des années dans les business en ligne. Mais tout ça, c'est un ensemble que tu découvres au fur et à mesure. Tu vois, c'est un ensemble que tu découvres vraiment au fur et à mesure et tu dis, OK, non, ça, j'ai compris que c'était bien. Ça, j'ai compris que c'était pas bien. Ça, je vais l'améliorer. Ça, je vais le corriger. Et aujourd'hui, tu l'as dit, tu vois, tout a démarré. Je me rappellerai toujours de la première vente que j'ai faite. C'était un downgrade, en fait, du programme. Donc, une version découverte du programme qui était à 97 euros. La première vente, elle a une saveur particulière. Moi, je me rappellerai toute ma vie. En plus, j'étais au Célio, place Kléber à Strasbourg, dans la cabine d'essayage. J'ai le téléphone qui sonne. Je fais, putain, 97 euros. Dans ma tête, ça y est, c'était, des fois, cette vente-là, elle a plus de valeur que même le sixième, Tucoma Club que tu fais. Tu vois, parce qu'elle te marque et tu te rends compte, en fait, de tout le potentiel que ça va pouvoir déclencher, derrière. Et après, tu l'as dit. Effectivement, il y a des rencontres, tu le dis comme moi, et on l'avait revu ensemble à Business au Beau Soleil, mais moi je le dis, je le répète, 100% de notre évolution passe par des rencontres. J'ai eu la chance, ou pas, des fois c'est peut-être pas forcément que de la chance aussi, de rencontrer certaines personnes sur ma route, avec qui j'ai sympathisé, avec qui on a commencé à travailler ensemble, qui étaient des clients, qui après sont devenus des associés au jour d'aujourd'hui, et qu'on continue encore d'accompagner après presque plus de 10 ans de collaboration, tu vois. Et aujourd'hui, effectivement, ces personnes avec qui on est associé, d'autres qu'on accompagne, bah, t'as ceux qui vont générer quelques milliers, quelques dizaines de milliers, jusqu'à ceux qui vont générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Et pourtant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, aussi bien moi de mon côté avec l'agence que au quotidien avec toutes les personnes qu'on peut accompagner. C'est jamais lisse, en fait. La trajectoire, elle est jamais droite.
Complètement, complètement d'accord. Et je rebondis sur un sujet. Tu vois, tout à l'heure, avant l'épisode, je suis allé sur ton site. D'ailleurs, il y aura les différents liens qui seront directement en description. Alors,
Yes.
tu me disais que au moment où l'épisode sortira, tu auras la nouvelle version de ton site. C'est dommage, ils ne verront pas ma grosse tête en train d'hurler.
Je la laisserai, je la laisserai. Je te promets que celle-là, je la laisse.
En tout cas, la photo, elle est épique. Donc, ça peut mériter. C'est vrai que, vu en tout cas la brochette d'acteurs qui ont marqué l'industrie et l'infoprenariat, comme on en parlait, franchement, la photo, elle vaut son pesant d'or. Mais
Ah,
au-delà de
c'est ça.
ça, je me baladais sur le site en bas et tu vois, je regardais les différents témoignages. Et c'est vrai que je fais un constat, c'est que, on va dire, allez, 60-70% des personnes qui sont au témoignage ont été connus, ont été présentes, ont eu des résultats, mais aujourd'hui ne sont plus vraiment présents et actifs et acteurs dans ce marché du business en ligne. Soit ils ont complètement arrêté, soit ils ont fait autre chose, ou soit pour certains, ils ont arrêté l'entrepreneuriat, ils ont fait d'autres choses, je ne les connais pas personnellement, mais je sais que c'est un phénomène que je vois, moi, au quotidien, ce genre de constat, hein, quel que soit le site, quel que soit l'event, quel que soit l'industrie et autres. Qu'est-ce qui fait, selon toi, justement, que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, y a certains acteurs qui ne tiennent pas sur la durée et sur le long terme, outre le fait, tu évoquais l'honnêteté, l'intégrité, la volonté de bien faire, est-ce qu'il y a d'autres variables à prendre en compte et donc des points de vigilance qu'on peut transmettre à ceux qui nous écoutent pour le permettre non pas simplement de réussir, mais aussi de tenir dans la durée?
C'est une bonne question, honnêtement. Comme ça, en écoutant la question, si tu veux, moi je pense qu'il y a... Il y a trois raisons en fait. Il y a trois raisons qui me viennent qui font que beaucoup ne tiennent pas sur la durée et aussi qui font que certains tiennent sur la durée. La première, c'est la raison pour laquelle ils sont rentrés dans les business en ligne. Aujourd'hui, beaucoup de marketeurs ont tendance à te dire lance-toi dans les business en ligne pour obtenir ta liberté financière. C'est faux. Je sais pas si tu te souviens, on m'avait parlé toi et moi au resto et je t'avais dit en fait. Les business en ligne vont te permettre de générer du cash, même beaucoup de cash, même parfois de façon insolente. Mais dès que tu commenceras à t'absenter en fait de ton business, que tu commenceras à lever le pied, même si tu peux avoir la meilleure agence, le meilleur directeur, les équipes que tu veux et tout, à un moment, quand tu commences en fait à te dissocier de ton business, bah forcément les résultats redescendent. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fini par comprendre que lancer un business, ça reste un business, donc tu dois rester derrière. Notamment pour celles et ceux qui ont choisi la voie de l'infopreneuriat, donc des entrepreneurs qui vendent de l'information. Souvent, c'est lié à beaucoup de branding, c'est beaucoup lié à leur image. Donc, dès que eux, leur image, en fait, s'absente, ils s'éloignent de leur communauté et forcément, ça s'impacte directement sur leur chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui fait que beaucoup ont arrêté? La première, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'est un game qui est chronophage et qui est énergivore et qui doivent être constamment là, tu vois, sur Instagram, faut faire tes stories, faut créer du contenu sur les réseaux, pouvoir être là et pouvoir tenir sur du long terme. Donc ça, c'est un. La deuxième raison, c'est effectivement qu'il y en a beaucoup, ils se sont rendus compte que générer tout ce cash-là ne va pas te permettre d'obtenir ta liberté financière. Et donc, du coup, ils sont rentrés dans les business en ligne et après, derrière, ils se sont dit, OK, bah, tout ce cash que j'ai généré, maintenant, je vais pouvoir l'investir ailleurs, peut-être dans de l'immobilier, peut-être je vais pouvoir l'investir dans des actions à dividendes. Et j'ai plus forcément besoin de faire des stories H24 et tout. Et finalement, je préfère en fait m'arrêter là. Et après, le troisième, c'est un peu, je vais être sincère avec toi, c'est un peu des salopards. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des gens comme ça qui ont fait des promesses, qui des fois ont même ouvert les ventes sans même finir la création de leur programme, qui parfois ne l'ont même jamais totalement livré. Wow. Ou même qu'ils l'ont livré et au final tout le monde s'est rendu compte que c'était un gros scam parce qu'au final derrière le contenu n'était pas forcément bon, il n'était pas forcément efficace, tu vois. Et donc voilà, c'est ce qui fait qu'ils ont disparu. Il y en a d'autres aussi qui se sont rendu compte que c'était un vrai job, tu vois. Il suffit pas de venir et de faire en fait le mariole sur Instagram, de faire deux trois lignes pour vendre un programme et qu'après ça cartonnerait. En fait non, il y a vraiment une expertise à avoir pour pouvoir en fait lancer un business en ligne qui génère du cash et après créer une communauté et après continuer de ce qu'elle est. Il y a vraiment quelques expertises à maîtriser, tu vois.
Ouais, je te rejoins complètement et c'est aussi ce qui fait moi j'ai identifié une vague de personnes qui ont quitté un petit peu l'industrie lorsque justement il y avait une sorte de vague de professionnalisation qui était quasiment indispensable. Ouais. Pour pouvoir continuer à tirer son épingle du jeu et être présent, et qui aujourd'hui, effectivement, tu vois, à l'époque, on nous aurait dit, voilà, il faut passer par une agence, etc., si tu veux scaler et autres, que ce soit pour le media buying, que ce soit pour être bien accompagné, bien conseillé, c'est pas forcément quelque chose qui aurait été naturel. Éventuellement, tu t'associes avec un marketeur, comme certains de tes clients ont pu le faire à un certain moment. Mais aujourd'hui, j'estime, en tout cas, quand tu veux scaler à un certain niveau, sauf si tu vas te structurer et avoir justement toutes tes équipes en interne, hein, certains le font, mais c'est une charge et une pression aussi sur les épaules de l'entrepreneur. S'il est dans un mood où il veut en faire, entre guillemets, le moins possible d'un point de vue développement, déploiement et marketing, bah, qu'il faut assumer, et il y a peu de gens qui sont en capacité ou même qui ont la volonté tout simplement de l'assurer et de l'assumer. Ça, je te rejoins tout à fait. Vas-y.
Pardon, excuse-moi. Et tu vois, même paradoxalement, ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, toi et moi, on en est au niveau où on en est et on en a chié, tu vois. On a galéré pour en arriver là.
Complètement.
Mais si jamais tu viens voir le Alec ou le Gaston d'il y a 10 ans et tu dis, écoute, je t'explique, tu vas réussir, mais tu vas galérer, t'auras ça, on va te mettre des couteaux dans le dos, t'auras ci, t'auras ça et tout. Honnêtement, je sais pas si j'aurais signé, tu vois. Donc, des fois, d'avoir cette espèce de naïveté et cette espèce d'insouciance de se dire, OK, tiens, j'y crois, en fait, à ce dream, mais je me lance et je verrai, en fait, ce que ça donne. Paradoxalement, des fois, ça a été aussi un moteur, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, ouais, faut kiffer le process, faut kiffer le voyage et voir, en fait, au fur et à mesure, le plaisir que tu peux prendre, au fur et à mesure des rencontres. Et ça, c'est aussi un point important parce que beaucoup, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants gâtés, hein. Sincèrement, moi, le premier, quand je fais des calls avec des prospects ou des personnes qui veulent lancer un business, dès qu'on discute, moi, j'ai des fois des red flags, hein. Ils me disent, bon, alors, attends, je t'explique. Moi, ça, je veux pas le faire. Ça, je veux pas le faire. Ça, je veux le déléguer. Ça, je veux pas. Ça, je veux. Ça, je veux. Ça, je dis, attends, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est très simple. C'est soit t'as de l'argent, d'accord, et t'achètes le temps de quelqu'un d'autre et tu délègues, soit t'as pas d'argent, d'accord, ou peut-être t'as un budget moindre. Mais dans ce cas-là, mon gars, c'est toi qui vas devoir te taper ça, ça et ça, en fait.
Mmh.
Et ça, des fois, les gens le comprennent pas, mais c'est soit tu mets de ton temps, soit t'achètes le temps de quelqu'un d'autre. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui veulent tout pour un budget moindre et ils sont pas prêts en fait à se retrousser les manches comme toi et moi on a pu le faire par le passé et que même encore aujourd'hui on continue de le faire, tu vois.
Bien sûr, non mais totalement, je te rejoins. Et justement, quels sont les différents conseils que tu donnerais aujourd'hui à une personne qui nous écoute, qui découvre un peu le monde de l'infoprenariat ou qui l'a découvert depuis un certain temps mais qui se lance et qui peut-être se dit ouais, « mais attends, mais quand je les écoute, ces deux personnes qui ont accompagné tant de gens qui sont encore présents dedans, ça a l'air difficile, ça a l'air complexe, voilà, limite ça le décourage. » Quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne pour quand même sortir de son épingle du jeu si vraiment elle veut se donner les moyens de réussir?
Écoute, je pense qu'il y a trois conseils. Le premier, en fait, c'est que il faut qu'elle se rapproche de personnes qui ont déjà réussi. Tu vois, c'est pas du pipeau ou quoi que ce soit, c'est sincère. Je le vois au quotidien, ceux qui réussissent encore aujourd'hui. Et vous devez comprendre que même s'il y a une génération comme celle de Alec et moi, il y a aussi une génération qui continue à chaque fois d'arriver derrière. Donc, vous êtes peut-être débutant, mais il y en a aussi d'autres qui sont débutants. Et pourtant, je les vois, il y en a beaucoup de débutants qui encore aujourd'hui réussissent et ils sont en train de monter, de monter, de monter. Par contre, ils ont compris que, ben voilà, il fallait investir pour se former, et il faut investir pour rencontrer aussi des gens. D'accord? Et ça, c'est important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, je pense qu'aujourd'hui, si jamais tu veux réussir, tu es encore plus qu'avant obligé d'être ultra niché. D'accord? Ça veut dire que, je te donne un exemple, par exemple, tu peux pas être que dans le développement personnel. Il faudrait que tu sois, par exemple, dans la parentalité. Et même dans la parentalité, il faudrait que tu sois, par exemple, je sais pas, dans la parentalité d'une certaine tranche d'âge, ou alors dans la parentalité Montessori, d'accord? Et ça, je pense que c'est un point qui est important. Aujourd'hui, un infopreneur qui veut se lancer, par exemple, dans, je sais pas, un formateur en investissement immobilier, bah, c'est devenu hyper concurrentiel. C'est devenu hyper concurrentiel. Donc, quelle est ta niche à toi? Quelle est ta spécificité qui fait que les gens vont venir acheter tes conseils à toi et pas ceux d'un autre? Parce que ça, il faut le garder en tête. Qu'est-ce que les gens, ils achètent? Quand ils achètent en fait un programme en ligne, ils achètent tous les conseils que tu donnes, ils sont déjà gratuits sur le web. On va pas se mentir, t'as tout qui est gratuit aujourd'hui sur YouTube. Mmh. Quand la personne elle paye, elle achète le temps qu'elle ne va pas perdre à aller chercher des infos gratuitement, d'accord? Donc toi, c'est ton rôle en tant que créateur de contenu de synthétiser l'information. Ce qu'elle achète, c'est la structure, parce qu'elle a pas envie, même si elle trouve toutes ces infos, elle sait pas dans quel ordre les mettre. Donc toi, en tant que créateur de contenu qui te lance, ton rôle, c'est aussi non seulement de lui faire gagner du temps, mais aussi de mettre de la structure. Et enfin, le troisième truc que la personne elle achète, je prends souvent l'exemple des personnes qui vendent des formations en investissement immobilier. Honnêtement, quand tu regardes, ils ont pas refait la roue, quoi. Tu vois, je veux dire, la location saisonnière, ils vont tous te donner des conseils. C'est souvent les mêmes. La colocation, c'est souvent les mêmes conseils. Investir dans un immeuble, c'est souvent les mêmes conseils. Donc, en fait, le troisième point, je veux en venir, si tu te lances et que tu as compris les deux premiers, le troisième point, c'est aussi de comprendre que les gens, ce qu'ils veulent, c'est acheter toi, ta façon de parler, ta façon de communiquer. Ce que les gens, ils achètent, en fait, c'est un réseau, c'est une communauté. Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter ton programme à toi et pas celui d'un autre? C'est parce qu'ils peuvent s'identifier à toi davantage que celui ou celle d'un autre infopreneur qui va prendre un programme plus ou moins similaire. C'est ça, ce sont des points qu'il faut absolument comprendre, qu'il faut absolument pouvoir assimiler pour pouvoir réussir aussi dans le business en ligne, encore au jour d'aujourd'hui. Et vraiment, je le dis, il y a encore de la place pour beaucoup de monde. Ce qu'il faut par contre, c'est être motivé, être conscient qu'il va falloir bosser, bien comprendre qu'il faut être niché et aussi se rapprocher de personnes en fait qui ont déjà réussi avant vous parce qu'ils vont vous faire gagner un temps de dingue.
Ouais, complètement. Complètement d'accord. Et surtout aussi se dire une chose, c'est que quelle que soit l'industrie et la niche, beaucoup, beaucoup de gens pourraient se dire, il n'y a plus de place dans cette industrie, il n'y a plus de place dans cette niche, mais toutes quasiment. Et il y a des marchés qui sont bien plus sophistiqués, bien plus avancés, bien plus concurrentiels que celui du business en ligne. C'est juste que ce sont des choses qui sont moins visibles. Or là, la plupart des infopreneurs, des entrepreneurs en ligne, etc., leur business model est basé sur leur visibilité. Donc naturellement, tu as l'impression qu'il y en a partout, il y en a tout le temps et que c'est un spectre très concurrentiel. Mais si tu sors ton épingle du jeu et que tu appliques les différents conseils que justement tu as parfaitement résumé ici, tu peux que justement encore réussir, je pense. Il n'y a pas d'excuse à ça.
Et
Vas-y.
tu sais, je pense même qu'au contraire, aujourd'hui, je pense même qu'il y a plus de place qu'avant. Sincèrement, je pense que ceux qui se lancent aujourd'hui, vous avez plus de chance que nous à notre époque. Parce que quand je dis à notre époque, ouais, mine de rien, ça fait déjà 10 ans. Mais avec Alec, quand nous on a démarré, c'était encore une génération où il fallait éduquer le marché francophone au e-learning.
Ouais.
Il fallait leur expliquer que c'était safe de mettre sa CB, sur une page de vente, une page de paiement et d'être débité. Et c'est vrai que vous entendez parfois des histoires d'une certaine génération qui a fait des millions et vous dites, ouah, mais ça c'est mort, on a loupé la ruée vers l'or et tout, mais c'est faux. Aujourd'hui, le marché francophone et les chiffres, on les a, je crois que je t'en avais parlé, Alex, je sais plus, mais lors du dernier mastermind Business Web au Soleil qu'on a organisé avec mon équipe à Marrakech, on a sorti les chiffres, non pas seulement du e-learning, mais attention, de l'infoprenariat, c'est-à-dire le segment infoprenariat du marché e-learning. Donc c'est vraiment ultra spécifique. Et ce marché-là, il est en pleine croissance. Il est en train d'exploser à la hausse pour tout un tas de raisons. Les frais de scolarité, ils sont en train d'exploser. Aujourd'hui, les gens se disent, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une école de commerce ou dans une formation en présentiel et que je vais devoir prendre un crédit et tout? Aujourd'hui, les gens, ils valorisent tout autant les formations en ligne. Aussi parce que les grandes universités s'y sont mises. Donc tout ça fait que vous avez tout un tas de facteurs qui fait que vous avez davantage en fait de signaux positifs à vous aujourd'hui pour vous lancer, davantage que ce que nous on a pu avoir à notre époque. C'est vrai que vous avez aussi les challenges, je dis vous, mais avec Alec on les a aussi. Par exemple, les histoires de cookies, de tracking sur iOS 14, l'augmentation des coûts publicitaires et tout. Mais derrière, il y a tellement d'opportunités encore aujourd'hui à saisir que on vit une époque qui est complètement folle et c'est surtout ça, je pense, le mot à retenir, quoi. Là, je parle
Complètement
beaucoup, Alex.
d'accord.
Faut pas que t'hésites à me couper.
On est là pour ça, t'inquiète pas, hein. C'est ton podcast. Je saurais te couper si besoin, mais
C'est cool.
c'est
OK.
parfait. Un autre point aussi, c'est que t'accompagnes énormément de gens, que ce soit sur des programmes, que ce soit dans le séminaire Business Web au Soleil, que ce soit avec ton mastermind et ton agence, etc. Mais j'ai envie de rebondir notamment sur deux clients parce qu'ils ont une particularité tous les deux et je trouve ça super intéressant. Et si je devais donner un dénominateur commun de la clientèle, en tout cas que je te connais parce qu'ils sont assez représentatifs de ceux que tu accompagnes, que ça fait des années que tu bosses avec eux, ils ont des gros résultats, c'est qu'ils sont assez clivants et qu'ils ont un branding relativement fort. Je pense respectivement du coup à Steve et à Matt Forex Gang. Et au point même où carrément, tu vois, bon, Steve, à part se dire que c'est un mec qui est carré, qui sait dans quelle direction il va, qui incarne ce message de force spéciale, etc. Et tu te dis, ok, voilà, il y va. Voilà, ça pourrait être quelqu'un de qu'on pourrait totalement croiser, mais carrément Matt Forex Gang. Où on pourrait dire c'est presque un trait caricatural d'un individu qui va te parler de crypto, de forex et de bourse, sans vouloir critiquer, hein, mais c'est vraiment la chose que je dégage. Et pourtant j'avais une discussion hyper intéressante avec lui dans ton premier séminaire. Et toi tu m'avais dit mais non, parce qu'on en a discuté récemment, m'a dit mais non, c'est lui au quotidien et tout, c'est vraiment lui, il est comme ça, il est naturel, etc. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant et fascinant, cette typologie de clients que tu accompagnes. Et justement, je pense que tu as pu acquérir pas mal de leçons sur un sujet, c'est qu'aujourd'hui, pour se démarquer, il est important d'avoir sa singularité, d'avoir son identité et de savoir, dans la mesure du possible, sans pour autant s'attirer les foudres de tout l'Internet, d'être clivant. Et ces deux personnes, leur point commun, c'est justement qu'elles sont extrêmement clivantes, finalement. Ça n'empêche pas qu'elles ont pu respectivement chacune d'entre elles aider des milliers de personnes à changer leur vie et qu'elles ont des témoignages clients fous et que finalement si l'un et l'autre ils sont là depuis des années sur le marché, bah, c'est quand même que leurs produits apportent de la valeur et qu'ils font du travail de qualité. Mais quelles sont les différentes leçons que tu pourrais partager et que tu as pu identifier au fur et à mesure des années quant à un positionnement clivant ou pour avoir justement un branding fort et un positionnement clivant vu que tu as accompagné ces deux personnes qui répondent parfaitement à cette typologie?
Ouais. Écoute, tu as bien introduit le sujet parce que effectivement, c'est vrai que souvent quand j'en parle avec les gens, ils me disent « Ah, mais c'est toi le marketeur qui les accompagne, d'accord, ok ». Et c'est vrai qu'on fait partie un petit peu, si tu veux, de cette typologie de, on va dire, de personnes qui accompagnent et qui restent dans l'ombre, tu vois. Et moi, ça me dérange pas. C'est vrai que ce sont des personnes qui prennent tellement la place et en même temps, ce sont des images, en fait, du business que nous, ça nous dérange pas, en tout cas, dans l'agence, de continuer à les accompagner en restant davantage en retrait. C'est aussi un choix qui est fait. Et c'est vrai que si c'était des clients, aujourd'hui, tu vois, la relation business, elle a beaucoup évolué puisqu'on est complètement devenus associés depuis quelques années maintenant. Et c'est même plus des associés, c'est des amis, c'est des frères et on continue encore d'avancer ensemble. Et comme dans toute collaboration, comme je le disais un peu plus tôt dans cette interview, il y a des hauts, il y a des bas, des fois il y a des prises de tête, des fois il y a même les trois quarts, même plus, des fous rires et des fois on est là jusque très tard le soir en train de rigoler et de discuter de tiens est-ce que t'es capable de lancer ça, est-ce que t'es capable de dire ci, et donc ça reste avant tout un énorme plaisir, tu vois, parce que tu me disais avant, tu me demandais ok qu'est-ce qui fait que certains ils tiennent longtemps dans ce game, en fait c'est aussi cette notion de plaisir, tu vois. Et je sais que aujourd'hui que ça soit avec Steve et Matt, on prend un vrai putain de plaisir en fait à bosser ensemble, à s'appeler, à rigoler, à discuter. Tiens, j'envoie ce mail, t'es capable de mettre cet objet de mail? Ouais, vas-y, je l'envoie. Et toi, t'es capable de dire sans story? Ouais, vas-y, ok. Et des fois, on part complètement en vrille en fait. Et ça reste un vrai plaisir de bosser, d'avancer, d'échanger en fait sur toutes ces thématiques-là. Après, tu l'as bien dit aussi, ce sont des personnes qui ont une image qui est très polarisante. Et aujourd'hui, si tu veux réussir, tu dois avoir une image qui polarise les émotions. Tu peux pas être lisse. Tu peux pas être lisse. Si tu es lisse, en fait, c'est que t'es rien, t'es personne. Et au final, je comprends que c'est pas agréable pour tout le monde parce que certains préfèrent, en fait, rester lisse, pas, en fait, aller clasher. C'est pas non plus du clash, tu vois, parce que ils vont clasher personne. Mais comme on le dit, en fait, si tu veux développer un business, il te faut une communauté et il faut aussi que tu annonces clairement quelles sont tes valeurs. Et aussi, surtout, que tu annonces clairement qui est l'ennemi commun, en fait, de ta communauté. Et quand tu étudies, en fait, ces deux cas pratiques, ce sont des personnes qui incarnent réellement ce qu'elles revendiquent. Par exemple, Matt, quand tu connais son histoire, tu sais que c'est un jeune black qui est originaire de banlieue, du 93. Et comme tout mec de banlieue qui vient du 93 et qui est black, c'est très difficile, en fait, de monter dans la société française qu'on connaît, tu vois, sans tomber dans les clichés ou quoi que ce soit. Et qui plus est que il s'est formé dans tout ce qui est trading, investissement, bourse, mais surtout trading forex sur différents marchés. Et c'est vrai que t'as pas l'habitude de voir ça, donc forcément ça vient un peu casser les codes du gars que t'as l'habitude de voir en costard, cravate et autres. Et maintenant pas du tout, au contraire il est comme ça au quotidien quand il trade, quand il s'éclate à Miami et qu'il vit sa best life là-bas. Steve, c'est pareil, tu vois. Steve, à la base, bon, lui, c'est pas du tout le trading ou les investissements en bourse. Lui, à la base, ce qui l'a fait connaître, c'est surtout la lecture rapide et le fait de se dire, OK, bah, aujourd'hui, si tu veux ta liberté, ça passe avant tout par la connaissance. La connaissance, il y a tellement de contenu qu'il va falloir l'absorber. Et pour l'absorber, tu peux pas te permettre de lire un livre par mois, quoi. Donc, du coup, la lecture rapide te permet d'absorber beaucoup plus de contenu qui après vont impacter différentes facettes de ta vie, mais aussi de ton business. Et donc, du coup, Steve, c'est un petit peu comme ça qu'il a commencé. C'était avec la lecture rapide. Il l'a implémenté pour lui-même parce que du coup, pour ses études, il a dû rattraper énormément de retard. parce qu'il est aussi originaire de banlieue. Si vous avez lu son bouquin, vous le savez, il est originaire de banlieue, donc il a dû rattraper tout un retard en termes d'éducation qu'il n'avait pas forcément eu. Et c'est ce qui lui a permis de continuer de monter, de monter, de monter, d'être le fondateur d'une ONG qui s'appelle Life, puis d'être président et ensuite d'être un serial entrepreneur et auteur du livre. Et c'est des gens, l'un comme l'autre, qui continuent constamment de se former et d'apprendre en fait au quotidien. Donc pour répondre à ta question, Alec, je te dirais quoi ouais, c'est effectivement très important d'annoncer clairement quelles sont les valeurs. Si tu polarises, c'est une bonne chose. Et je conclurai juste sur ce point-là. Faites très attention. Je vois beaucoup d'infopreneurs qui ont compris le point de l'importance de la polarité au niveau des émotions et qui veulent le faire. Et ça se sent que c'est forcé en fait. Ça se sent que c'est forcé. Tu vois, il y en a, je les vois, ils font des lives parfois sur Instagram ou alors dans du contenu qu'ils vont produire et tu les vois, tu dis, oh là là, t'es en train de partir dans un bourbier, je sais pas comment est-ce que tu vas faire pour t'en dépêtrer. Et ça se voit dans les commentaires, tu vois, dans les commentaires, t'as des gens un petit peu qui réagissent de façon un petit peu virulente et eux se disent, ah, c'est bien, là, je suis en train de polariser, je suis en train de polariser. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe, hein. La polarité, elle est importante, mais il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit élégante. Et l'équilibre, il est vraiment très particulier à avoir. Mais plus vous arriverez à le faire, plus vous arriverez à dompter cette polarité-là, et plus vous pourrez être successful, en fait, dans le business, quoi.
Ouais, totalement, je te rejoins effectivement. Je suis moins dans l'analyse du marché actuel, etc., de son évolution pour pouvoir avoir le même type de feedback que toi, mais en tout cas, ça m'étonne absolument pas ce que tu évoques là et je te rejoins sur le conseil que tu as partagé. Un autre point, c'est, tu disais, je fais partie de ceux qui aiment être dans l'ombre et c'est intéressant d'en parler parce que finalement, c'est aussi savoir se connaître soi, parce que ça n'empêche pas en étant dans l'ombre que tu apportes énormément de valeur de manière directe et indirecte, que toi-même tu as tes propres produits et finalement tu es quand même visible, mais visible et connu par les personnes dont tu as envie d'être visible et connu, qui sont qualifiées, à qui tu as vraiment envie d'apporter de la valeur et à qui tu as envie de travailler personnellement. Et puis aussi d'être une personne successful en tant qu'entrepreneur, équilibrée et heureuse aussi dans ta vie du quotidien. Et ça, c'est important parce que c'est cette balance et cet équilibre de vie qui fait finalement le sens et la raison pour laquelle on entreprend. Au même titre que t'as eu envie de retourner au Maroc parce que ça avait plus de sens et ça t'apportait un équilibre et un niveau de bonheur différent que celui de rester en France alors que t'aidais des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à partir au Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette notion de se connaître soi et d'accepter que voilà, dans ton cas, on n'est pas forcément la personne la plus visible, la plus connue, mais on peut contribuer et accompagner des gens à l'être et à le faire, et de l'autre côté, s'adresser qu'à des clients avec qui on a vraiment envie de travailler et d'être visible au quotidien?
Écoute, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je pense que tu as raison, il faut apprendre à se connaître et surtout, je pense que il faut accepter l'idée que ce sont des phases de vie. Tu vois, par exemple, donc je l'ai dit, j'ai commencé en 2013, 2014. Après, en 2017, l'activité était bien lancée. Donc là, je savais que je voulais revenir m'installer au Maroc. Et paradoxalement, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est de voyager. Et là, je me suis fait kiffer. Je suis parti à Bali, je suis parti en mission humanitaire, en Thaïlande, au Vietnam. J'en ai profité, j'ai joint l'utile à l'agréable, comme on dit, parce que j'ai assisté à des séminaires, Funnel Hacking Live, à Nashville, j'étais à Miami. Enfin bref, j'ai beaucoup voyagé. Je me suis vraiment fait plaisir pendant quasiment plus d'un an, un an et demi. Et à chaque fois, en ayant cette nouvelle base, en fait, où je m'étais installé au Maroc. Donc, c'est vrai que tu aurais interviewé le Gaston d'il y a quelques années, ou peut-être même qu'on refera une autre interview dans quelques années, je sais pas, et je te sortirai un autre discours différent. Mais ce point-là, il est important, c'est de se dire, OK, au jour d'aujourd'hui dans ma vie, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Et qu'est-ce qui, je pense, me fera kiffer peut-être aller juste sur les 1, 2 ou 3 ans à venir? Je suis pas spécialement fan des gens qui se font des plans sur 5 ans, 10 ans, même 3 ans, ça me paraît tellement loin. Il faut bien comprendre que quand tu es entrepreneur, tu vis tellement de choses de façon accélérée, quoi. C'est la dernière fois, je sais plus avec qui j'étais en train d'en parler, et il me disait, putain, mais mec, tu cherches des problèmes d'un gars de 50 piges qui est en train d'acheter un terrain, de construire, et qui est en train de gérer je sais pas combien de boîtes et tout. Et je lui dis, ouais, mais c'est cool, tu vois, c'est mon quotidien, j'adore ça et tout. Donc, c'est des phases de vie. Ça, c'est le premier point. Deuxième truc, c'est que, si tu veux, moi, je suis dans une phase de ma vie où Et d'ailleurs, ça a été comme ça depuis quelques années maintenant. J'aime être discret, j'ai mon compte Instagram, je fais quelques stories, je partage beaucoup de contenu en fait sur mon podcast. Et on va pas se mentir, le luxe que je m'offre de pouvoir choisir les clients avec qui je peux bosser, c'est aussi parce que j'ai investi, j'ai des revenus, j'ai différents business qui tournent pour moi, et ça peut m'offrir, entre guillemets, pour en revenir sur le sujet, cette liberté de pouvoir choisir avec qui je veux bosser. Et aussi de me dire, ben voilà, aujourd'hui, je ne cours pas après des millions, je cours pas après ça ou ça. Et au contraire, j'ai envie de bosser que 3-4 heures. Et après, derrière, j'ai envie d'aller faire mon entraînement de rugby. Et après, derrière, j'ai envie d'aller me promener. Et après, j'ai envie d'aller faire ça, ça et ça, tu vois. Et c'est une phase de vie. C'est vraiment une phase de vie où j'accepte ça. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'ils tombent un peu dans l'ego aussi, tu vois. C'est une espèce d'ego surdimensionné où tu te dis, ouais, non, je veux tout partager, je veux qu'ils voient ci, je veux qu'ils voient ça, et je veux les faire rêver avec ça, ça et ça. Et tu sais, des fois, je discute avec des gens et ils me disent, mais on te connaît pas, toi, je t'ai jamais vu, t'as jamais. Est-ce que t'as vraiment. Je crois une des questions les plus drôles qu'on m'ait posées, c'est est-ce que t'as vraiment. Est-ce que tu gagnes vraiment de l'argent parce qu'on t'a jamais vu, en fait, en Lamborghini, en Ferrari? Est-ce que t'es pas un infopreneur mytho parce qu'on te voit pas dans des trucs luxueux et tout? Et c'est vraiment très drôle parce que. Tu vois, tu te dis que les gens, souvent, ils ont besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de voir ces KPI-là pour arriver à te situer. Alors que, honnêtement, je te dis, moi, je prends un vrai putain de plaisir à me promener ici, chez moi, à Casablanca, en short, t-shirt tranquille, sans que personne sache qui je suis, ni ce que je fais, ni quoi que ce soit. Je monte chez moi, je bosse, je redescends, et je suis un mec comme tout le monde, et je kiffe ça, je kiffe ça, je kiffe ça grave, quoi.
Ouais, non, je te rejoins et je comprends totalement côtoyant je comprends totalement pardon côtoyant moi-même aussi des gens autour de moi qui ont plus des traits de personnalité comme le tien et une vision similaire à la tienne à 100%. Un autre point, je rebondis sur une citation que tu as citée alors peut-être que c'est une citation de Gaston Akiblast lui-même hein, 100% de notre évolution passe par des rencontres. Je trouve ça très vrai. Je trouve ça 100% vrai et moi-même incarnant parfaitement ce message aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait énormément de séminaires. J'ai organisé énormément de séminaires, de mastermind, même des meet-up. C'est pour dire, dès que j'ai une demi-soirée de disponible en France, lorsque je rentre en France, j'organise un meet-up où je fais rencontrer plusieurs dizaines d'entrepreneurs à la fois, etc. à chaque fois. Donc, vraiment, ce truc-là, je le reconnais et je le vois. Mais toi, quelle est ta vision justement des séminaires, du réseau, des rencontres, en particulier des séminaires vu que tu en as organisé plusieurs? Qu'est-ce qui fait aussi, selon toi, que bah, aujourd'hui, en 2023, il y en a beaucoup moins, malheureusement? Si tu savais le nombre de gens qui m'ont contacté pour dire ouais, est-ce que tu peux faire une story ou est-ce que tu sais quels sont les séminaires qu'il y aura en 2023? Parce que j'ai envie d'y participer, j'ai envie d'être en contact avec les gens, j'ai envie de rencontrer les gens, mais j'étais incapable de leur citer un seul séminaire parce qu'il y en a quasi plus, j'ai l'impression. Du coup, ouais, avoir ton feedback, ton point de vue sur ces deux, trois points.
Donc, il y a deux choses. La première, c'est effectivement la phrase, je te confirme, elle est de moi. Donc, 100% de notre révolution passe par les rencontres. Mais tu fais bien d'aborder ce sujet, Alec, parce que je vais profiter de ce podcast pour éclaircir un truc. Quand je dis aux gens, 100% de votre évolution passe par des rencontres, les gens, ils imaginent tout de suite que c'est une évolution qui va aller vers le haut et c'est une évolution positive. Et je voudrais bien dire un truc, c'est que le terme évolution, il peut aller aussi bien vers le haut que vers le bas. Ça veut aussi dire que tu peux faire
Totalement.
des mauvaises rencontres. Et ce point-là, il est important. Parce que 100% de notre évolution passe par des rencontres. Ça veut aussi dire que si tu fais de mauvaises rencontres, bah, derrière, tu peux aussi te descendre. Et c'est pour ça, bon, on va pas revenir sur la phrase, tout le monde l'a dit, l'a redit, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Ok, certes. Mais pour ça, il faut que tu ailles fréquenter des personnes et surtout que tu saches qui tu ne dois pas non plus fréquenter. J'avais pris cette métaphore à BWS. Il me semble que tu étais là. Oui, j'en avais parlé. J'assimile beaucoup en fait ce qu'on fait nous dans notre industrie à Harry Potter. Et pour ceux qui connaissent cette métaphore que j'ai déjà sortie plusieurs fois, dans Harry Potter, vous avez en fait les sorciers et vous avez les moldus. Les moldus, c'est la personne lambda qui n'a aucune connaissance du monde de la magie. Et les sorciers vivent parmi les moldus. Et moi, en fait, je dis souvent ça. Je dis, ouais, en fait, nous, les infopreneurs, les entrepreneurs du web, on génère parfois des revenus qui sont insolents. On est des sorciers et on vit parmi les moldus au quotidien. Quand tu vas au resto, quand tu prends les transports ou alors juste quand tu fais tes courses comme monsieur et madame tout le monde. Mais là où je veux en venir, c'est que même parmi les sorciers, t'as les griffons d'or d'un côté et t'as les serpentards de l'autre qu'il faut vraiment éviter. Et ce point-là, il est important. D'accord? Ce point-là, il est vraiment super important. Et effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être de moins en moins d'événements. Quand il y en a, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont qualitatifs. Alors à quoi c'est dû? Je pense que honnêtement, c'est lié aussi au coût que ça peut représenter. Il y a beaucoup de personnes qui parfois se disent, OK, je vais organiser un événement, qui commencent un petit peu à se renseigner, à regarder, et se rendent compte qu'on n'est plus forcément sur les coûts qu'on a pu avoir à une certaine époque, on va dire avant le Covid. Aujourd'hui, les coûts ont explosé hein, sur la location de salle, sur tout un tas de choses. Ils demandent davantage de garanties aussi pour se sécuriser. Et tout ça fait que c'est pas forcément évident. Après, honnêtement, je pense qu'il y a toujours des événements. Il faut réussir à les trouver. Faut réussir à peut-être continuer de suivre en fait certaines personnes qui ont l'habitude d'en organiser. Tu vois, par exemple, Raphaël Cartigny, il en organise un par an et on échange souvent sur le sujet parce qu'il me dit, ouais, Gaston, c'est pas évident. Des fois, c'est compliqué. Les intervenants, faut réussir à trouver des gens de Faut réussir à trouver des gens de qualité, c'est pas toujours le cas, faut réussir à chercher. Même moi, hein, avec le séminaire Business Web au Soleil, on est encore en train de réfléchir à est-ce qu'on organise une nouvelle édition ou pas, comment ça va se faire. C'est pas évident. C'est tout un tas de calculs à faire, aussi bien au niveau des intervenants que des coûts, et surtout dans quelle stratégie en fait s'englobe en fait cet événement-là, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand vous rejoignez un programme en ligne, il y a toujours une communauté qui accompagne le programme, que ce soit un groupe Telegram, que ce soit un groupe Facebook, que ce soit un serveur Discord ou quoi que ce soit. Et si ces événements n'existent pas, c'est de votre responsabilité de les créer. Vous avez parfaitement le droit aujourd'hui de créer, je sais pas, un meet-up ou quoi que ce soit à Paris, de le faire tourner en fait sur les réseaux et de proposer à des gens de venir. Alors ce sera peut-être pas idéal, ce sera peut-être pas le plus carré, mais je vous le dis honnêtement, vous pouvez en organiser. Qu'est-ce qui vous en empêche de l'organiser et de le partager aux autres membres de la communauté du programme dans lequel vous avez investi? Et peut-être que parmi eux, il y a des personnes qui sont déjà successful, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en train de se lancer. Mais gardez en tête que 100% de notre évolution passe par des rencontres. Moi, Matt, on bosse ensemble depuis des années. Je l'ai rencontré à un événement. Et en plus, c'était un événement gratuit, tu vois. Donc, si j'avais acheté un livre, c'était un événement de Sébastien, le marketeur. Il nous avait invités. Et bam, j'ai rencontré Mathieu là-bas. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées aussi à l'époque au séminaire de Cédric Anissette. Même toi et moi, on s'est revus là, il n'y a pas longtemps quand tu étais de passage à Casa. On s'était revus la fois d'avant au Mastermind de Hotmart. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement d'opportunités de se rencontrer. Mais gardez en tête que vous devez rencontrer du monde et que 100% de notre évolution passe par des rencontres, quoi.
Complètement, complètement d'accord. Et comment faire du réseau, comment faire du network, comment aller rencontrer des gens ou autres quand il n'y a pas forcément d'événements aussi, parce que finalement, il y a peut-être des gens qui se disent, ouais, il y a pas d'event ou oh non, j'ai pas forcément les finances pour pouvoir m'offrir un séminaire ou ceci ou cela, mais j'ai envie de développer mon réseau, mon network. Est-ce que tu as des conseils en particulier à partager à ceux qui se posent la question?
Ouais, tu sais, quand j'étais dans l'Est de la France, on a créé le premier mastermind de l'Est de la France. Et c'était un mastermind gratuit. Honnêtement, on se réunissait une fois par trimestre. Et on se réunissait une fois par trimestre. On louait un chalet dans les montagnes. On partait. On prenait éventuellement service traiteur ou alors chacun prépare un repas et on y allait. Après, effectivement, tu vois, donc là, le lieu, on l'a cherché par nous-mêmes. Au niveau des personnes qui y participaient, c'était souvent des personnes qui étaient un petit peu dans cette sphère-là, parce que je les revoyais dans différents groupes Facebook, dans différents programmes sur lesquels en fait j'avais déjà investi, et je leur avais dit, OK, ben venez, on se rencontre une fois par trimestre. Et c'est ouf parce qu'aujourd'hui, sur les 20 personnes, t'en as peut-être allez une douzaine qui sont devenus indépendants financièrement. Il y en a eu plein. Aujourd'hui, ils sont peut-être un peu moins mis en avant, mais parce qu'ils ont déjà une certaine assise financière, ils ont plus autant envie, ils ont peut-être moins la dalle, ils ont peut-être moins faim. Mais en tout cas, je vous le dis, s'il n'y a pas d'événement qui existe, vous êtes parfaitement en droit d'en créer un. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement faire. Et le meilleur moyen, c'est, dans un premier temps, peut-être je paye pour rejoindre un programme en ligne. Et quand je rejoins le programme en ligne, je vois en fait, est-ce que bah il n'y a pas une communauté qui est attachée. 99% des cas, il y a toujours une communauté qui est attachée à un programme en ligne. Et quand je suis rentré dans ce programme en ligne-là, derrière, je peux échanger avec les gens, avec la permission du fondateur, mais dans 80% des cas, ils sont d'accord de dire, voilà, j'aimerais organiser une rencontre avec les membres de Marseille, de Strasbourg, de Paris. Est-ce que t'es OK si jamais je partage ça? Et en général, ils sont d'accord. Parce que même eux, en fait, ça fait vivre la communauté. Et vous leur rendez service. Vous leur rendez service. Donc, au contraire, c'est vous qui devez être force de proposition si jamais vous trouvez pas le truc. Après, il y a aussi une autre opportunité, c'est de peut-être contacter des personnes qui organisent des événements. Et peut-être leur proposer votre aide, leur dire voilà, je sais pas si t'as besoin de quelqu'un pour la partie logistique ou peut-être si jamais je peux t'aider, je sais pas, à déplacer le micro d'un participant à un autre ou quoi que ce soit. Ça vous permet toujours de réseauter, de détourquer, de rencontrer du monde à des événements comme ça, quoi. Mais soyez force de proposition, n'attendez pas que ça tombe du ciel, quoi.
Complètement d'accord. Également un autre point, on parlait tout à l'heure un petit peu rapidement de crypto. C'est quoi ton point de vue, ton avis sur la crypto par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend sur ces dernières années, etc. Est-ce que tu es actif dans la crypto? Pas du tout. Est-ce que tu as diversifié aussi là-dedans? Ouais. ou pas?
Ouais. Écoute, j'ai pas mal investi en crypto, honnêtement. Je crois que je dois avoir un certain wallet, on va dire, pour pas rentrer dans les détails. Mais principalement, on va dire, sur Bitcoin, Ethereum, du Solana. J'ai vécu toutes les galères là qui nous sont tombées dessus ces derniers mois. Peut-être naïvement, comme beaucoup de personnes, j'ai cru qu'on allait devenir riche avec encore protocole. J'ai eu aussi des déconvenues, on va dire, avec Celsius quand c'est tombé. Heureusement, j'ai pas été affecté par ce qui s'est passé avec FTX, contrairement à certains de mes amis. Mais oui, en tout cas, je crois beaucoup en la crypto. Je pense que ça va devenir, si ce n'est même pas déjà le cas, en fait. Un élément incontournable, en fait, de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Après, si tu veux mon avis, tout ce qui s'est passé m'a fait réaliser que aujourd'hui le Bitcoin reste le roi. Je pense que ça devient très compliqué de retrouver tout ce qu'on a pu entendre par le passé, parce qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec certaines personnes, t'as toujours certaines entre guillemets légendes qui reviennent. Ouais, il a investi dans tel crypto, elle a fait x1000, et là il a gagné des millions et tout. Je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué à détecter, ouais, à trouver. Donc, si tu veux, moi maintenant j'ai une position où voilà, je fais mon DCA sur du Bitcoin. Je fais extrêmement attention à la pondération des crypto-monnaies sur mon patrimoine total, parce que je me rends compte que c'est une industrie, en tout cas au moment où on enregistre cet épisode, qui est pas aussi bien régulée en fait que ce qu'on peut penser. Je pense que les États vont pas rester éternellement attentistes à regarder un petit peu certaines personnes réaliser des sommes complètement folles. Je pense qu'elles vont pas non plus perdre la souveraineté qu'elles ont sur leur monnaie. Je pense que c'est quelque chose qu'elles ne vont pas abandonner de sitôt tout de suite, même si beaucoup te disent oui, mais c'est déjà trop tard et tout. Non, je suis désolé, c'est peut-être trop tard ou pas trop tard, mais si tu habites en France et que demain matin on te dit il est interdit de détenir de la crypto en tant que résident fiscal en France, ça y est, le débat il est clos en fait. T'as rien à faire en France. Ou si tu restes en France, mais ils peuvent te tomber dessus. Et il suffit de voir en fait les recrutements que font les différents organismes étatiques en France. Ils recrutent énormément d'experts blockchain, et toutes celles et ceux qui ont pu générer des gros coups sans déclarer quoi que ce soit, dites-vous qu'à un moment ou l'autre, ça va finir par vous tomber dessus, parce que c'est inscrit sur la blockchain, et quand ils seront équipés, si c'est pas dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ils pourront remonter autant qu'ils veulent en fait sur l'historique blockchain et venir vous demander de leur rendre des comptes. Donc je pense qu'il faut vraiment être vigilant. Faut pas raconter n'importe quoi aux gens, leur dire qu'ils vont devenir indépendants financièrement, libres ou quoi que ce soit grâce à la crypto. Je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant, bien se renseigner sur les projets. Il y a eu beaucoup d'histoires par le passé desquelles il faut tirer des leçons pour pas refaire les mêmes erreurs à l'avenir. Et surtout, pour moi, ça a été vraiment la grosse leçon. Faire attention à quelle part représentent les cryptos dans mon portefeuille d'investissement total. Est-ce qu'à côté, j'ai investi en bourse? On est à combien? Est-ce qu'on est sur un 80-20? Est-ce qu'on est sur un 90-10? Parce que les cryptos restent encore très volatiles, même si là, le marché a l'air un petit peu de se réveiller. Mais bon, je suis encore très, très méfiant par rapport à tout ça.
Ouais, complètement d'accord, sachant qu'en plus, la plupart des cryptos, même les plus grosses, on parle de fondamentaux, on parle de cryptos primaires et autres, mais c'est quand même très récent, très jeune. Souvent, c'est basé sur des hype marketing que nous, marketeurs, on sait assez bien identifié, mais quand même, on peut toujours tomber dans le truc. Donc, non, je te rejoins à 100% et c'est quand même un investissement très risqué, très spéculatif qu'il faut faire dans un deuxième temps, investir de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Et c'est pas forcément le premier actif sur lequel j'irais me situer si je voudrais diversifier mon patrimoine et justement, voilà, réussir à gagner davantage d'argent grâce à l'argent que j'ai pu générer grâce à mon labeur ces dernières années. Donc, je te rejoins là-dessus. Un autre point, c'est au niveau de vivre au Maroc. C'est comment vivre au Maroc finalement ? Parce que souvent, j'ai des gens que j'ai au téléphone, que j'ai en interview, etc. La plupart des entrepreneurs qu'on connaît sont soit basés en France, soit basés dans des pays frontaliers français, Suisse, Belgique, etc. Éventuellement, on s'expatrie en Estonie, on s'expatrie en Espagne, au Portugal, lorsqu'on est dans le business en ligne. Pourquoi pas en Grande-Bretagne, à Dubaï, énormément aussi. Mais le Maroc, c'est une destination plus, en général, de vacances ou de cœur lorsque l'on est d'origine marocaine, ou même lorsqu'on est européen et qu'on va en vacances ou autre pour un séminaire, comme je peux le faire et je peux apprécier le faire à chaque fois. Mais j'ai moins l'occasion d'avoir des gens qui, justement, se sont expatriés à temps plein là-bas. C'est comment la vie là-bas ? Est-ce qu'il y a des trucs en particulier à savoir ou à partager pour ceux qui nous écoutent ? Et ça se trouve, ça donnera envie à certains de déménager ou pas.
Ouais, c'est une bonne question. Donc, tu sais, là, je pourrais t'en parler vraiment pendant des heures de ce sujet parce que ça me passionne énormément. Mais pour faire simple, je pense qu'il faut bien comprendre les raisons, qui vous emmèneraient à venir vivre ici au Maroc, tu vois. Moi, en l'occurrence, c'était un retour aux sources parce que je suis né, j'ai grandi ici. Toute ma famille est basée ici au Maroc. Donc, pour moi, c'était assez évident parce qu'on est très, très proches. Ça me paraissait assez évident de revenir m'installer au Maroc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, effectivement, j'en parle beaucoup avec beaucoup d'amis qui sont nés, qui ont grandi ici et qui, eux, ont fait le choix de rester vivre en France ou à l'étranger et qui, comme toi, me posent la question alors que eux, ils connaissent le Maroc. Tu vois, ils me disent, mais pourquoi tu rentres au Maroc, tu pourrais tellement plus te faire kiffer à l'étranger. Moi, si tu veux, Alec, au Maroc, je me sens chez moi, en fait. Honnêtement, je me sens chez moi. Et pourtant, c'est paradoxal de dire ça, parce que je m'appelle Gaston, je m'appelle Hakim, j'ai une double nationalité franco-marocaine, j'ai vécu en France pour mes études supérieures et quand j'ai travaillé. Et pourtant, en fait, paradoxalement, je me sens au Maroc chez moi. C'est pas un pays qui est parfait, c'est un pays qui est très jeune, qui a beaucoup à apprendre. C'est pas un pays en fait qui a les prétentions en fait d'être aussi luxueux que Dubaï. C'est pas un pays prétentieux honnêtement parce que il y a tellement d'axes d'amélioration par rapport à la vie au Maroc. Mais si tu veux quand je suis là, quand je suis sous le soleil, quand je vais sur le bord de mer, je me sens bien, je me sens à l'aise. En plus, on va pas se mentir. Quand tu fais comme moi, c'est-à-dire que t'as une société qui fait de l'exportation de services. Je vais être transparent. On fait de l'exportation de services, donc mes clients sont à l'étranger. Je facture depuis la boîte, depuis la structure qui est au Maroc. Donc on est exonéré de TVA, on est exonéré d'impôts sur les sociétés. En tout cas au moment où je fais cet épisode avec toi. Et donc du coup, ça veut dire que techniquement, tout le chiffre qu'on fait, tant qu'il reste en fait dans la structure, on n'a rien à payer. Et si jamais demain je décide de me verser des dividendes, on est amené à payer que 15% sur les bénéfices qu'on décide de se reverser. Alors bien sûr, il y a des conditions à respecter par rapport à ça, mais ça veut aussi dire que ça peut te permettre d'avoir un cadre de vie qui est extrêmement agréable quand tu es ici au Maroc et de te faire des bons restaurants et d'avoir un niveau de vie qui est extrêmement intéressant. Tu vois, après, à chacun ses ambitions, à chacun ses objectifs de vie, mais ce qui me fait rester au Maroc, c'est pas forcément ces avantages fiscaux, parce que je pourrais aller à Dubaï, je pourrais en avoir, je pourrais aller vivre à Miami, j'aurais aussi ce type d'avantages fiscaux. Mais voilà, je me sens bien chez moi ici. J'ai mon soleil, j'ai la mer, j'ai la famille, j'ai mes amis, j'ai mon club de rugby qui est à côté, j'ai ma salle de sport qui est à côté, et je kiffe, tu vois. Et comme je l'ai dit, hein, si ça se trouve dans quelques mois, quelques années, peut-être que j'en aurai marre et peut-être que je voudrais partir vivre quelques années à Bali ou ailleurs. Mais en tout cas, ça correspond à une phase de vie qui n'est pas faite pour tout le monde. Je pense que pour vivre au Maroc, il faut savoir lâcher prise. Ça, je pense que c'est le gros truc. Si tu viens au Maroc et que tu ne sais pas lâcher prise, je pense que tu vas finir par péter un câble. Donc ça, je pense que c'est un truc qui est extrêmement important. Et le dernier conseil que je donnerais par rapport à la vie au Maroc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à venir, c'est dégrossissez le truc, quoi. Parce que quand on se dit, je vais aller vivre au Maroc, ça fait peur, en fait. Mais rien ne vous empêche après de rebouger. Vous pouvez parfaitement venir louer un appartement, prendre un BnB sur 3 mois, 6 mois. Vous venez, vous kiffez, vous voyez, en fait, si jamais vous aimez ou pas. Et si vous aimez pas, vous pouvez aller dans une autre ville au Maroc et tester. Et si jamais vous aimez pas, vous êtes parfaitement libre de repartir, hein. Vous n'êtes pas emprisonné non plus, obligé de rester au Maroc. Mais je pense qu'il faut dégrossir le truc, parce que quand on se parle de s'expatrier, de partir vivre dans un endroit, ça peut vite faire flipper certaines personnes. Et comme je l'ai dit, 100% de notre évolution passe par des rencontres. Donc si vous venez au Maroc, rencontrez des personnes qui se sont installées ici, échangez avec elles, discutez avec elles, et peut-être que ça vous permettra de voir les choses différemment.
Ok, je vois, et justement pour, j'encourage les gens à appliquer les différents conseils que tu as partagés, et pour les gens qui auraient peut-être des a priori ou des idées reçues, moi-même j'ai travaillé avec beaucoup de personnes au Maroc, spécifiquement au Maroc, et indirectement, on a eu des équipes qui étaient au Maroc lorsque j'avais le cabinet d'expertise comptable avec Robin et Hamza, pardon. Et donc, je connais la réponse à cette question, mais des fois, les gens ont des a priori négatifs à l'égard du fait de est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre qualifiée au Maroc et des gens qui en veulent et qui sont prêts vraiment à charbonner, à travailler. Toi, aujourd'hui, je sais que tu as ton agence, tu as tes équipes qui sont basées au Maroc, vous êtes un peu plus d'une dizaine de collaborateurs, il me semble, tu as staffé tout ça, vous êtes super bien structuré et vu les résultats que vous avez, bah, il n'y a pas qu'une question d'avoir de la bonne stratégie, parce qu'avoir de la bonne stratégie, aujourd'hui, on peut l'avoir quasi partout, il y en a plusieurs qui savent comment faire de l'argent en ligne. En revanche, avoir la capacité d'appliquer la stratégie correctement et donc la pratique et la technicité métier pour le faire, bah, ça nécessite d'autres typologies de compétences. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de ce sujet-là?
Ouais, exactement, tu l'as dit. Aujourd'hui, on est davantage structuré pour deux raisons. La première, c'est que les associés historiques qu'on a, bah, ils continuent de grossir. Donc, c'est aussi de notre côté une obligation qu'on a de continuer à les accompagner sur tout un tas de nouveaux supports, sur tout un tas de nouvelles idées qu'on a envie de tester, qu'on a envie d'implémenter. Donc, on a dû recruter. On a dû recruter. Alors, parfois des personnes qui habitent ici et honnêtement, parfois des personnes qui ne sont pas du tout au Maroc parce que dans notre industrie, l'expertise, elle se renouvelle constamment. Et malheureusement, c'est triste à dire ou pas, mais d'ailleurs, que tu sois au Maroc, en France ou tu veux sur le globe, quand tu recrutes une personne en contrat de travail, elle a tendance à vite se reposer sur ses lauriers. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont indépendantes, avec qui on a peut-être certains contrats d'exclusivité, avec qui on collabore. Mais aujourd'hui, on est effectivement équipé pour accompagner la croissance des associés qu'on a, mais aussi pour accompagner la croissance de nouvelles personnes. Des nouveaux créateurs de contenu qui ont déjà une expertise sur un sujet donné, peut-être des infopreneurs ou des entrepreneurs qui ont déjà un business qui génère un certain niveau et qui ont envie de le scaler pour le porter à un autre niveau. Donc on intervient sur toute cette phase-là. D'abord, dans un premier temps, on fait l'audit, on discute avec elle, on la rencontre, on échange, et après, effectivement, on voit en fonction de ses objectifs, en fonction du tunnel qu'elle a, en fonction de ce qu'elle veut faire, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est réalisable? Parce que t'en as beaucoup pour qui ça restera à l'embryon de fantasme, tu vois. Je te sors le cliché, mais celui qui vient te dire, ouais, je veux un webinar Evergreen qui me crache 1 million par mois et je veux faire ça, 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 et je vais pas mettre tant et tant et tant. Puis je dis, ok, c'est pas pour nous, en fait. Si quelqu'un d'autre t'a fait cette promesse-là, va le voir directement. Et aujourd'hui, effectivement, nous, on peut se permettre de dire à la personne, ça, c'est pas possible. Ou alors ça, c'est possible. Ou alors ça, c'est challengeant, mais oui, on peut aller chercher avec toi parce qu'on l'a déjà testé ou parce qu'en fait, on a pensé à le décliner de telle ou telle façon avec toi. Donc oui, là, au jour d'aujourd'hui, dans l'agence, on prend de nouvelles personnes qu'on peut accompagner dans le développement de leur business, très clairement.
Ouais, je vois, ouais. Non, c'est super intéressant et c'est important. Et moi-même, j'ai été souvent très, très satisfait avec les personnes avec qui j'ai travaillé au Maroc, hein, pas que au Maroc spécifiquement, mais souvent, tu sais, tu as cette peur, tu as cette crainte de délocaliser les prestataires que tu vas aller chercher. Mais finalement, c'est comme partout. En France, en Suisse, en Belgique, tu as des gens excellents, tu as des gens bons, tu as des gens moyens, tu as des gens nuls. Bah, c'est pareil partout finalement. Il y a des talents partout, il y a des gens moins bons partout. Il faut juste savoir dissocier les bons des moins bons et puis choisir les personnes avec qui tu vas collaborer sur le long terme pour pouvoir avancer. Donc,
Ouais, et tu sais, Alec, quand on s'était vu, tu m'avais posé une bonne question. Tu m'as dit, Gaston, Qu'est-ce qui fait que deux gros, entre guillemets, comme Steve et Matt, continuent de bosser avec toi depuis 10 ans? En fait, il y a une notion de confiance aussi. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de marketeurs qui se lancent, tu as tellement de personnes qui sont là et tu sais pas en fait ce que ça vaut, ce que ça donne, ce que ça dit. Mais tu sais, quand tu es dans une relation de travail avec ton marketeur et la personne qui t'accompagne, en fait, c'est une vraie relation de confiance parce que la personne, pour être efficace dans son travail, elle a besoin d'avoir accès à ta base mail, par exemple sur ActiveCampaign, d'avoir accès à ton processeur de paiement. Tu peux pas en fait bosser avec une agence en essayant de limiter les accès, en mettant des restrictions de sécurité de partout. Sinon, tu vas juste ralentir les choses et ça va être frustrant pour l'un et pour l'autre. Donc, il y a aussi cette notion-là de confiance. Tu vois,
Complètement.
aujourd'hui, les gens, quand ils viennent nous voir, en fait, ils s'en fichent de savoir est-ce que Gaston, il a recruté des gens au Maroc, est-ce qu'il a recruté des gens à l'étranger. C'est tu viens, tu bosses avec Gaston, c'est Gaston ton point de contact. Et après, comment est-ce que Gaston fait sa sauce? J'ai presque envie de te dire, c'est sa sauce maison. Tu vois, toi, tu viens, tu as ton point de contact, tu échanges avec lui. Et après que lui, il délègue ou alors qu'il le confie à tel account manager dans sa team, t'es tranquille parce que derrière, tu sais qu'il y a la confiance et la sécurité qui fait aussi la réputation depuis tout ce temps, tu vois.
Complètement d'accord. Complètement d'accord. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois à nos
Ouais.
invités. D'ailleurs, si vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'animer, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast, l'avis sur Apple Podcast, le
Yes.
partage partout, c'est
Yes.
important. Et comme ça, on va pouvoir continuer à gravir les échelons les uns après les autres des podcasts francophones. Ma question est la suivante. Parmi toutes les choses que tu as partagées, est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode au sujet d'un élément qui a été vraiment transformateur pour toi, révélateur pour toi dans ta carrière professionnelle, mais aussi ta vie personnelle potentiellement, que tu as vraiment envie de nous partager et qui pourrait créer un déclic potentiellement chez les gens qui nous écoutent.
Ouais, c'est une bonne question. T'as des très bonnes questions, Alec. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je t'ai dit, ah, c'est une bonne question. Ah, ça, c'est une très bonne question. Franchement, moi, je vous le dis, là, tous ceux qui écoutaient, mettez des 5 étoiles. Franchement, faites pas les rats, là. Lâchez un peu des 5 étoiles, ça vous prend 30 secondes. Et moi, je vous le dis, l'épisode, partagez-le. Peut-être pas à tout le monde, mais juste une personne à qui tu sais que ça aura un vrai impact. Genre là, si tu écoutes ce podcast et que tu sais que tu as kiffé au moins un truc que j'ai lâché, partage-le au moins à une personne à qui tu sais que ça va aussi faire un impact. Et après, mis bout à bout, je suis sûr que ça va permettre à ce podcast de prendre sa vraie place qui est tout en haut du podium des podcasts. Et donc du coup, pour répondre à ta question, Alec, alors il y a deux choses en fait. Il y en a même plein qui me viennent, mais je vais t'en donner deux. En fait, tu sais, quand j'ai commencé dans les business en ligne, je pense que toi, ça a dû être pareil, mais on a eu ce fantasme, en fait, du Chocoma Club. Tu sais, le trophée que tu obtiens avec ClickFunnels quand tu crées un tunnel qui génère un minimum de 1 million de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, tiens, Gaston, franchement, c'est un beau challenge. Vas-y, il faut vraiment que tu te motives et que tu te challenges à le faire. Et franchement, j'ai bossé dur. Finalement, je l'ai fait avec Steve et on a fait le Chocoma Club. Et tu vois, après, j'étais content, je l'ai partagé sur les réseaux et les gens, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, mais tu l'as fait, franchement, c'est facile à faire. Après, le plus difficile, c'est comme toujours de rester au top et de le refaire. Je leur ai dit, ok, vous savez quoi? On va le refaire. J'en ai fait un deuxième, j'en ai fait un troisième et j'étais content, j'ai partagé mes trois Chocoma Club, peut-être naïvement, tu vois, sur Instagram, j'étais là avec mes trois Chocoma Club et tout. Et après, il y avait encore des personnes qui sont venues qui m'ont dit, ouais, mais tu l'as fait, mais c'est parce que t'étais dans l'industrie du dev perso et parce que ça marche bien et aussi parce que t'es avec Steve et Steve il a une communauté, bon, comme d'hab des gens qui parlent sans savoir. Mais je me suis challengé, je me suis dit, tiens, c'est quoi, il a raison, vas-y, viens, on le fait sur une autre thématique. Et là, on s'est hyper chauffé avec Matt, franchement j'étais un peu vénère sur le coup et on a refait le Chocoma Club, tu vois, et je l'ai refait avec Matt. Et après pareil, les gens m'ont dit, ouais, tu l'as fait une fois, faut pas, okay, d'accord, donc c'est bon. Donc là, qu'est-ce que tu veux d'autre? Je l'ai fait trois fois avec Steve, je l'ai fait trois fois avec Matt, tu veux quoi que je demande encore à d'autres clients de le faire? Et à un moment, en fait, tu te dis, bon, au final, tout ça a été des moteurs, tu vois. Aujourd'hui, on n'en demande plus des Chocoma, déjà, parce qu'on a arrêté avec les nouveaux clients qu'on accompagne d'utiliser ClickFunnels, parce que bah, ils commencent un petit peu à être obsolètes par rapport à l'utilisation que nous, on peut en faire en termes de tunnel de vente. Mais je pense que le point à retenir, c'est qu'est-ce qui te challenge à toi en fait? Et pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Nous, on l'a fait dans l'amusement, dans la joie. Ça, bien sûr, il y a toujours eu des petits moments de tension parce que tu te challenges, ça reste un business, des fois il y a des difficultés, mais on l'a fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais aujourd'hui, une fois que tu l'as atteint, c'est quoi qui continue de te motiver? Qu'est-ce qui continue en fait de te driver par la suite? Et ça, c'est des vraies questions à se poser. C'est une vraie question parce que tu veux faire de l'argent, mais pourquoi est-ce que tu veux faire cet argent-là? Quand j'y réfléchis, moi, je me dis, bon, au début, j'ai voulu me lancer dans les business en ligne parce que mon père était malade. Après, je suis rentré au Maroc. J'ai voulu continuer à développer les business en ligne parce que je voulais avoir une belle qualité de vie au Maroc. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui continue d'animer? Qu'est-ce qui continue d'animer? C'est des vraies questions que je vous invite, en fait, à vous poser parce que ça en revient au titre de ce podcast. C'est comme ça, la boucle sera bouclée. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer un déclic chez vous, en fait? Peut-être même que la raison est déjà là, mais vous l'avez pas identifié comme un déclic. Et ça, je pense que c'est une vraie question à laquelle je vous invite à vous poser. Vous faites un petit verre de thé à la menthe, vous allez dans l'idéal, en bord de mer, vous posez et vous réfléchissez à ça. Parce que j'en vois beaucoup qui me disent, ouais, Gaston, je fais mes affirmations tous les matins, je fais mes écritures et tout, j'ai un business, j'ai envie de générer 10K par mois. Et la question de se dire pourquoi tu fais ça, c'est une vraie question à vous poser.
Ouais.
Et je vous invite vraiment à le faire parce que ça rejoint aussi la question qu'Alec a posée. Qu'est-ce qui fait que certains, en fait, arrêtent? Parce qu'ils n'ont pas identifié leur vrai truc. Et à un moment, ils se lancent et ils finissent par abandonner. Ou alors, ils génèrent du cash et après, ils se barrent. Et ils n'ont pas identifié la vraie raison qu'ils ont envie de continuer constamment à avancer dans leur business. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce qui sera votre déclic à vous. Peut-être même qu'il est déjà là, mais que vous ne l'avez pas identifié comme déclic.
Complètement d'accord. Complètement d'accord, je ne pense que l'on n'aurait pas pu mieux terminer cet épisode, Gaston. C'était vraiment un plaisir.
Voilà, pareil, pareil,
Enfin,
partagé.
si, on aurait pu mieux terminer si juste après l'épisode, on serait allé manger un bon morceau, toi et moi. Mais bon,
Ah,
malheureusement,
j'avoue,
la
j'avoue.
distance nous l'empêche, mais ce n'est que partie remise et puis on planifiera ça soit à Dubaï, soit au Maroc, soit ailleurs, c'est certain, dans les semaines ou dans les mois à venir. Merci en tout cas pour
Avec plaisir,
ça.
mon
Merci
Alec.
beaucoup, c'était vraiment un plaisir et puis à très bientôt.
À très bientôt, les amis. Go, laissez un 5 étoiles là sur Apple Podcast.
Yes.
La bise, Alec. Merci à
Merci.
toi. À
Ciao,
bientôt.
ciao.
Ciao.